Jeudi aujourd'hui, nous sommes le 13 juin. Plein de courage à vous, il est 7h.
France Bleu Paris.
Votre journal avec Mélodie Pépin. Et la retraite alors, à quel âge va-t-on pouvoir partir ?
62 ans ou plus. Hier, le Premier ministre a annoncé un âge d'équilibre en incitant à travailler plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait le point dans un instant. On fera le bilan aussi de la politique de la ville. Les quartiers et les assos se sont oubliés. Des annonces sont attendues aujourd'hui. Quelle réquisition pour les Balkany ? Réponse cet après-midi. Et puis des bleus au top. Nouvelle victoire des Françaises hier au Mondial de foot. Mais c'était dur face à la Norvège. Dans le prochain quart d'heure, Romain.
Eh bien, on en parlera des Bleus avec l'ambiance au stade. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux ont fait la route ensemble également. Des ralentissements à vous signaler ce matin sur la 1 et la 3, juste après le journal. Le point complet sur votre météo pour ce jeudi.
France Bleu Paris Matin.
Quand va-t-on partir à la retraite ? C'est la question que tout le monde se pose ce matin.
Oui, parce que ce n'est vraiment plus très clair depuis le discours du Premier ministre. Hier, Édouard Philippe le dit, il ne touche pas à l'âge légal, 62 ans, ça ok. Mais il parle aussi d'un âge d'équilibre qu'il veut mettre en place. Ça veut dire quoi, Raphaël Delvolvé ?
Alors, vous l'avez dit, Mélodie, ça n'est pas clair du tout. Ce qui est sûr, c'est que 62 ans reste l'âge légal de départ à la retraite. Mais un départ à la retraite à 62 ans ne vous assure cependant pas une pension à taux plein. Le gouvernement veut inciter à travailler plus. Pour l'avoir, ce taux plein, il va falloir atteindre cet âge d'équilibre. Si vous le dépassez, si vous partez à la retraite après, la pension sera surcotée, augmentée. À l'inverse, si vous partez avant, elle sera décotée, réduite.
Mais alors, vous ne nous avez pas dit exactement à quoi ça correspond, cet âge d'équilibre ?
Bah non, le Premier ministre ne l'a pas dit, je ne peux pas vous le dire non plus. Ces dernières semaines, on évoque 64 ans. Je vous le rappelle, la moyenne française de départ à la retraite, c'est 63 ans et 3 mois. On peut aussi se poser la question d'un âge d'équilibre évoluant au gré de la situation économique de la France.
Raphaël Delvolvé, merci. Et cette question des retraites, on y revient dans le dossier de la rédaction à 8h moins le quart, avec la réaction de la CFDT.
On risque donc de travailler plus longtemps, mais on va payer moins d'impôts.
Édouard Philippe promet en effet que les classes moyennes qui payent la première tranche de l'impôt sur les revenus économiseront 350 euros par an. Et puis autre annonce, un malus pour les entreprises qui recourent et abusent des contrats courts dans 5 à 10 secteurs.
Le gouvernement attendu aujourd'hui sur la politique de la ville.
Oui, il y a eu le rapport Borloo, souvenez-vous, enterré sur les banlieues et depuis plus rien.
Et depuis un an, comment s'en sortent les quartiers ?
Le ministre de la ville et du logement doit justement faire un point à la halle de la Villette à Paris aujourd'hui avec des annonces et il y a beaucoup d'impatience chez les élus et le secteur associatif. Les petites assos sont les premières à souffrir depuis la baisse des contrats aidés. Elles espèrent sortir un peu la tête de l'eau depuis les promesses du président Claire Chaudière.
Mai 2018, le président promet moins de paperasse, une simplification des démarches pour les petites associations de quartier. Puis le 4 février dernier, devant un parterre d'élus de banlieue, il va plus loin et se prononce pour
un vrai plan pour les petites associations.
Il y a des annonces, mais pour l'instant, on ne voit rien. Nous sommes toujours à la recherche de subventions.
Mohamed Ragoubi, figure associative du quartier de la Coudray à Poissy, fait partie de ceux qui commencent à perdre patience.
Prenez la Coudray, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de commissariat de police, il n'y a pas de poste. Donc l'association prend le relais. On n'a pas de salariés, on n'a que des bénévoles. C'est de plus en plus compliqué.
Baisse des financements et arrêt à partir de l'été 2017 de centaines de milliers de contrats aidés. Le tissu associatif des quartiers prioritaires a énormément souffert en 2 ans, explique Bénédicte Madelin à la tête d'une cellule de soutien au sein de la coordination Passons-nous.
J'en connais qui ont mis la clé sous la porte. Une petite association qui faisait du soutien scolaire. Ça aujourd'hui vous en avez plus pratiquement dans les quartiers. Mais vous en aviez énormément. Tout ce tissu-là, pour moi, il est essentiel. Parce que c'est des points de repère pour un certain nombre de personnes. Et après, on ira pleurer de la montée, de la radicalisation.
Le silence, en tout cas, du gouvernement sur ce sujet, préviennent de nombreux acteurs associatifs, ne peut plus durer au risque d'aggraver encore un peu plus la crise de confiance.
Claire Chaudière, et qu'en pensent les élus ? Qu'attendent-ils ? On posera aussi la question au maire de Grigny à 7h15, avant la réponse attendue du ministre de la ville et du logement, Julien Denormandie, est notre invité ce matin sur France Bleu Paris à 8h15.
Oui, France Bleu Paris qui vous offre la possibilité d'échanger directement avec le ministre. Vous avez carte blanche, hein. Toutes les questions sont possibles sur le logement, sur les prix, la vie en banlieue. Comment vous sentez-vous dans votre ville? 01 42 30 10 10, c'est à vous de le dire. On vous laisse la parole tout à l'heure à partir de 8h15. Pour l'heure, il est pratiquement 7h05 et le procès des Balkany place au réquisitoire aujourd'hui.
Patrick Balkany affirme qu'il n'a jamais été corrompu. Alors a-t-il convaincu? Le maire de Levallois attend les réquisitions cet après-midi. Elles pourraient être lourdes pour lui et son épouse dans ce volet de l'affaire blanchiment et corruption, Sarah Guibaudot.
Le procureur a reconnu une qualité à Patrick Balkany, le courage d'être venu affronter la justice. Pendant 4 semaines, le maire de Levallois a continué à distribuer les bons mots et les explications douteuses. La villa de Marrakech, il maintient qu'elle était louée à son fils, qui n'a pas démenti, et qu'elle devait servir de planque à un richissime saoudien. L'homme d'affaires en question s'en est étranglé. Il n'a pas besoin de se cacher du régime de Riyad, dit-il, et besoin de personne pour s'acheter une maison. Quant à savoir pourquoi M. Al-Jaber a fait ce cadeau de 4 millions d'euros à Patrick Balkany, la défense souligne que cela reste mystérieux aussi. Pourquoi verser un pot de vin pour obtenir un délai de paiement pour les tours de Levallois? En 2009, avec la crise financière, la ville n'a pas d'autres investisseurs. Patrick Balkany finit par reconnaître en partie la dissimulation de sa fortune avec toute une palette d'excuses. Son père juif, son gestionnaire suisse, sa qualité d'élu qui l'empêchait de faire marche arrière. S'il en est là, c'est parce qu'il a la manie de faire plaisir, a-t-il conclu. Pas sûr que le procureur soit convaincu par ses regrets.
Sarah Guibaudot, réquisition prévue cet après-midi. Rappelons que dans le volet fraude fiscale, le procureur a demandé 4 ans de prison ferme pour Patrick Balkany, 2 ans pour son épouse Isabelle. Et puis dans l'affaire Georges Tron, on connaît la date du procès en appel. Il aura lieu au printemps prochain. L'ex-secrétaire d'État et maire de Draveil a été acquitté l'an dernier des accusations de viol et d'agression sexuelle par 2 ex-employés municipales.
À Noisiel, 2 individus sont en garde à vue pour une escroquerie au chèque volé.
Ils auraient escroqué 6 victimes. Un préjudice entre 120 000 et 140 000 euros.
Et puis vous étiez peut-être derrière la télé, enfin derrière la radio, mais devant la télé, hier soir pour encourager les Bleus, et elles ont gagné.
Deuxième match, deuxième victoire pour les Françaises au Mondial de foot. De quoi leur assurer presque les 8e de finale. Victoire 2-1 face à la Norvège. On a le sourire ce matin, mais ça a été difficile ce match, comme le concède l'attaquante Eugénie Le Sommer, auteur du 2e but.
Ça a été compliqué, après je dirais par réaction, parce qu'on a quand même été les plus dangereuses en première mi-temps, même si on n'a pas marqué, on aurait pu être plus précise dans le dernier geste et à la finition pour marquer. Après on l'a pas fait, mais on a réussi à le faire en seconde mi-temps, et je pense que le plus important c'est d'avoir gagné ce match. Il faut parfois passer par des moments difficiles pour aller loin dans la compétition, et aujourd'hui on apprend encore. Ouais, il faut se servir de ça, l'équipe a eu du caractère, a eu du mental pour revenir, et c'est ça qu'il faut retenir.
Eugénie Le Sommer, prochain match, le dernier des phases de poule, hein. Ce sera lundi face au Nigeria et on le suivra en direct bien sûr sur France Bleu Paris. En attendant, vous pouvez revivre les buts de France-Norvège sur francebleuparis.fr.